Football, un monde de femmes, un débat proposé par l'agence Alter avec le soutien de la Loterie Nationale. Depuis quelques années, le nombre de joueuses affiliées à un club de football est en forte augmentation en Belgique. Les différentes fédérations s'y mettent également en multipliant les programmes destinés à encourager la pratique du football par les filles et les femmes, que ce soit au niveau mondial, européen et belge. On voit aussi certains clubs s'investir dans ce développement et on sent grandir l'intérêt médiatique pour les compétitions internationales de foot au féminin. Alors est-ce un signe que le monde du ballon rond est enfin en état de marche pour s'ouvrir à la moitié de l'humanité? On va en discuter avec deux interlocutrices. Tout d'abord Clotilde Coden, qui est chargée de développement de foot féminin à l'ACFF, qui est l'association des clubs francophones de football. Bonjour.
Bonjour.
Et Laura Catita, qui est ancienne joueuse au FC Femina White Star Woluwe, un club aujourd'hui membre de la Super League, qui est la plus haute marge du foot au féminin. Bonjour.
Bonjour.
Alors Laura Catita a également été kiné au FC Femina White Star, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc bonjour à toutes les deux. Merci d'être là. Peut-être pour commencer, alors Laura Catita, on voit aujourd'hui un engouement pour le football au féminin. Vous avez commencé le foot féminin au début des années 90. C'était quoi le tableau du foot à l'époque quand vous avez commencé?
Le tableau du foot, pour les filles en tout cas à cette époque-là, c'était plutôt compliqué parce qu'en tant que fille, il fallait se faire une place. Et puis surtout prouver aux garçons qu'on était capable de jouer au foot comme eux et même mieux qu'eux. Donc ça, c'était plutôt le souci de l'époque. Et puis c'était surtout l'image qu'on donnait du football féminin à ce moment-là, c'était pas top. Donc c'était surtout des garçons manqués qui jouent au foot. Et donc voilà, il a fallu se faire une petite place et c'était pas si simple à cette époque-là en tout cas. Donc voilà.
Mais je crois que vous avez commencé finalement dans un club où vos coéquipières étaient deux à trois fois plus âgées que vous, non?
Ah oui, c'est ça. Donc moi, j'ai commencé. Donc il n'y avait pas de club avec des catégories d'âge. Donc en fait, il y avait une équipe de filles. Et donc, qu'on ait 11 ans, 12 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on jouait dans la même équipe en fait. Donc, donc voilà, j'ai commencé, j'avais 11 ans, dans une équipe d'adultes.
Voilà. Ça vous a amené finalement jusqu'au noyau du FC Femina White Star,
si? Oui, c'est ça. Donc là, c'était beaucoup plus structuré. Donc là, ça commençait en tout cas à avoir une sorte de structure. Donc là, je suis arrivée à 15 ans au Femina White Star et la plupart des filles avaient mon âge dans l'équipe, peut-être une ou deux plus âgées, mais en soi, on avait quasi toutes le même âge, quoi.
Vous êtes monté, je pense, de provincial jusqu'en D1 à l'époque.
D1, oui.
Donc, c'était en fait pas la Super League, mais le...
Mais c'était le niveau le plus haut qu'on pouvait atteindre à ce moment-là, en tout cas. Donc, il n'y avait pas encore de Super League à cette époque-là. Donc, on arrivait en D1, et puis la D1, c'était le summum d'arriver en D1, donc c'était top. On a un peu traversé chaque saison, chaque division, en fait, si je peux dire. Ouais. Et puis, chaque fois, c'était une victoire et c'était la fête. Enfin, c'était un truc de dingue à l'époque, quoi. Mais... Donc voilà, la Super League est arrivée par après, ça j'ai pas connu, je l'ai connu en tant que kiné dans l'équipe, mais voilà, arriver en D1, c'était déjà super, quoi. C'était top.
Finalement, vous avez arrêté, vous avez opté pour les études.
Alors j'ai arrêté, oui, parce que j'ai opté pour les études me prenaient énormément de temps, et puis il faut rester lucide, à cette époque-là, le football féminin, ça rapporte pas, on n'a pas de contrat, on n'a pas ces 50 euros le match gagné, et si on prend pas de rouge, parce que sinon c'était nous qui devions payer, donc à l'époque c'était plus compliqué. Pour mes études de kiné, il a fallu que je mette entre parenthèses le football. Je l'ai peut-être fait un peu de manière trop drastique, dans le sens où j'ai arrêté tout du jour au lendemain. J'ai attendu avant de m'y remettre. Ça a toujours été quelque chose que j'adore. Enfin, le football, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais lâché réellement. Je m'y suis remise il y a quelques années, là maintenant, il y a peut-être 4 ans de ça. Mais j'ai eu une longue période où je n'ai plus fait le foot, quoi. Et ça m'a manqué, oui.
Je crois me souvenir que quand on s'est parlé pour l'article, vous me disiez finalement... Peut-être que je suis arrivé trop tôt, finalement. Est-ce que...
Alors, quand j'y pense, oui, j'aurais préféré naître peut-être à cette époque-ci maintenant et de démarrer le foot peut-être à cette époque-ci où les choses sont plus... sont plus mieux organisées. Voilà, il y a des catégories d'âge. On commence, on le voit au White Star, où il y a des toutes petites qui commencent en U9. Enfin, je veux dire, à l'époque, jamais ça n'existait, ça. Donc, les filles essayaient de se faire une place dans les équipes de garçons. Enfin, je veux dire, c'était assez compliqué. J'entendais même dire que là où il y a des filles qui jouent, c'est bon, on va gagner, c'est trop facile, ils ont des filles dans leur équipe, enfin, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont différentes, sont beaucoup plus organisées. Et je pense qu'il y a moyen de progresser autrement aussi dans le milieu du foot féminin, quoi. Avant, c'était un peu de l'impro, en fait, j'ai l'impression. pour le coup, ouais, j'aurais préféré naître à cette époque. Je trouve que, du coup, mes enfants, mes filles sont dans une chouette époque du football, je pense, comparé à ce que j'ai vécu, quoi.
Clotilde Coden, alors quand vous écoutez le parcours de Laura Catita, je veux dire, est-ce qu'on est loin de ça, alors, actuellement, je veux dire, dans le foot au féminin?
Bah, Alors déjà, je trouve que le parcours est tout à fait inspirant de Laura qui, malgré tout, garde toujours un pied dans le football à l'heure actuelle, que ce soit avec sa profession de kiné, en tant que joueuse à la BBFL ou encore en tant que maman. Les problématiques qu'elle met ici en avant, elles existent encore. Elles sont très clairement moins importantes que ce qu'elle a pu vivre, mais à l'heure actuelle, ce stéréotype lié au niveau, que les filles sont plus faibles que les garçons, elles sont présentes tous les week-ends. Mmh. Peut-être pas par toutes les équipes, mais c'est très certainement arrivé à toutes les joueuses actuelles, chez les jeunes, jouant contre des garçons, de vivre cela. La problématique de la structure, de l'organisation, elle existe encore. Et encore une fois, elle n'est rien à voir avec ce que Laura a pu vivre, mais elle est encore là. Mmh. Et c'est le travail au quotidien de mon département de pouvoir arriver à offrir plus d'opportunités aux filles dans le football, que ce soit en tant que pratiquante, que ce soit en tant que formatrice, que ce soit en tant que dirigeante de club. C'est vraiment la mission au quotidien. Mmh.
Alors justement, pour essayer d'améliorer la situation, je pense que la CFF a mis en place différentes choses, notamment pour aller chercher les jeunes joueuses finalement au sein des écoles, mais aussi enfin, les inciter à rejoindre le club. Alors vous avez aussi évoqué toutes sortes d'enjeux effectivement sur le... Ça, on y reviendra, mais peut-être pour commencer sur finalement la base, les affiliations, l'arrivée des joueuses en club, enfin, qu'est-ce que la CFF a mis en place?
Ouais, donc ici, en fait, le constat, il est le suivant. Les filles vont arriver plus tardivement dans la pratique du football. Elles vont s'essayer à d'autres sports avant d'arriver dans le football. Donc ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir vraiment, un manque de quantité chez les plus jeunes, et deux, un manque de qualité, non pas parce qu'une fille est une fille, un garçon est un garçon, mais parce que le garçon aura commencé le football dès le plus jeune âge. On parle maintenant d'affiliation à 4 ans et demi chez les garçons, vous imaginez. Et donc, notre constat, c'est de dire, OK, qu'est-ce que nous, en tant que fédération, on peut faire pour amener les enfants, les filles, le plus tôt possible dans la pratique? De quoi elles ont besoin et comment on peut répondre à ces besoins-là et à ces nécessités. Donc on a mis en place l'activité qui s'appelle Foot for Girls, qui est déclinée en trois pôles. On a le Foot for Girls Camp, qui est organisé durant les vacances scolaires, pour toujours donner une opportunité de pratique lorsque les clubs sont en pause. On a le Foot for Girls Training, qui là est une activité ponctuelle, pour toutes les filles de 5 à 15 ans, et gratuite aussi. Et on a le Foot for Girls Training, qui est vraiment notre activité phare à l'heure actuelle pour atteindre les objectifs qu'on a cités avant. Donc le Foot for Girls Training, c'est une activité ouverte à toutes les filles du primaire. On a toujours une petite latitude au niveau des âges, hein, bien évidemment, mais notre public cible est 5 à 11 ans. Mmh. C'est une activité gratuite, donc on ne veut pas que le volet économique soit un frein à la pratique, c'est très important pour nous. Elle est encadrée par des formateurs diplômés, des formateurs qu'on aura formés aussi plus spécifiquement aux enjeux des filles dans le football. Et elle est organisée avec des clubs qui sont ambitieux dans le développement du football des filles. Ça n'aurait pas de sens que d'aller imposer l'activité au club, parce qu'au final, ils n'auront le retour et la possibilité d'affiliation et de perspective d'avenir dans la pratique, on ne l'atteindra pas. Le dernier point par rapport à cette activité Foot for Girls Training, c'est que c'est une activité qui est hebdomadaire et donc qui implicitement va donner le goût aux filles de rester dans la pratique et de revenir.
Oui, oui. C'est peut-être une chose qu'on peut encore approfondir deux minutes. Le fait qu'en général les jeunes filles arrivent plus tard au club, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est parce qu'elles ont testé d'autres choses? Elles ont dû convaincre les parents finalement et en fait elles arrivent tardivement, quand elles sont un peu plus indépendantes, entre guillemets, ou enfin, qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent plus tard en formation?
La première raison, oui, c'est l'essai d'autres sports, d'autres sports dits plus féminins. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on arrive dans le football, y a encore moins, c'est sûr, mais il y a encore cette casquette de ouais, t'es une fille, tu vas dans le football, t'es sûr. Donc il faut déjà aller à 9-10 ans, et plus jeune encore, arriver à se battre contre ce stéréotype-là. Et tout le monde n'en est pas capable, tout le monde n'a pas la force.
Oui. Ça m'a été dit par un responsable de club qui me disait, en fait, elles arrivent quand elles deviennent entre guillemets, plus indépendantes et qu'elles peuvent se déplacer toutes seules ou qu'elles, à ce moment-là, elles sont là. Mais enfin, avant, parfois, elles doivent se battre contre les parents, c'est pas toujours super évident.
Oui, contre les parents et contre les copains de classe. Hein.
Oui, c'est pas évident.
Et je pense qu'il en serait de même pour un garçon qui va aller faire de la danse. Hein.
Complètement. Vous avez dû vous battre, Rakatita.
Alors moi, à mon époque, oui. À mon époque, oui. Bah, comme je disais, mon père, pour lui, déjà, il n'avait pas connaissance qu'il existait des équipes féminines. Mm. Et donc, pour lui, ce n'était pas possible que j'aille jouer dans une équipe de garçons. Enfin, donc voilà. Bon, après, évidemment, en ayant scié pendant des années, parce qu'il m'a... pareil, il m'a mis à d'autres sports, tennis, athlétisme, enfin voilà. Et puis finalement, je voulais plus y aller. Donc en gros, ce que je voulais faire, c'était du foot. Donc il a été convaincu qu'en fait, c'était vraiment ça que je voulais faire. Et donc quand l'opportunité s'est présentée d'une équipe féminine juste à côté de la maison, c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Mais à l'époque, oui. Et puis voilà, enfin je veux dire, à l'école, c'était, c'est celle qui joue au foot avec les garçons, c'est le garçon manqué, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. J'ai jamais posé de questions sur la féminité parce que je joue au foot avec des garçons. Enfin pour moi, c'était pas grave et c'était pas... Enfin voilà. Maintenant, c'est vrai qu'en grandissant, vers l'âge de 15-16 ans, c'était encore un peu dans les esprits ce genre de préjugés, quoi. Maintenant, je pense que ça a quand même beaucoup changé, quoi. Ça a quand même changé, mais c'est encore là. Hein. Donc, je sais qu'une de mes filles me dit dans la cour, quand j'essaie de jouer avec les garçons, je dois un peu faire ma place, quoi. Hein. Donc, les équipes sont déjà faites et puis il faut que je me. Je pense que c'est pas encore tout à fait parti, évidemment. Mais maintenant, c'est beaucoup moins présent, je veux dire, que ce que c'était à l'époque.
Alors justement, on voit depuis quelques années que le nombre d'affiliations de joueuses dans les clubs est en augmentation. Finalement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est l'effet de ça ou est-ce qu'il y a un engouement global? Est-ce que finalement, on s'est dit, vous évoquez notamment parfois des préjugés qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on a vaincu ces préjugés? Enfin, je sais pas, le Rakatita, quand vous avez commencé, est-ce qu'ils étaient là? Vous avez l'impression que ça change, que ça évolue?
Alors évidemment, moi, avec le recul, évidemment, oui, ça change. Hein. Par rapport à ce que moi, j'ai vécu, oui. J'ai eu l'occasion aussi de voir des équipes où jouent des garçons, où il y a des filles qui jouent. Et donc, effectivement, elles jouent très, très bien. Et donc, ça met un peu la pression aussi aux garçons de l'équipe et de l'équipe adversaire. Donc, je trouve qu'effectivement, on a quand même bien progressé par rapport aux préjugés. Maintenant, je pense qu'une fille qui dit « je fais du foot », on n'a plus l'air en train de la regarder, c'est bizarre. Enfin, moi, à mon époque, c'était ça. C'était « ah, tu joues au foot, mais le foot, c'est pour les garçons. » Et donc voilà. Moi, je ne me suis jamais sentie mal par rapport à ça, parce qu'au final, moi, j'aimais ça, et puis point barre, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais je sais que dans l'entourage, et principalement pour mon papa, ça a été compliqué d'accepter que je veuille faire du foot dans une équipe de foot, en fait. Et donc... pour finir, il a bien compris que j'aimais ça et qu'il fallait que ce soit comme ça. Mais aux yeux des gens, on restait quand même le garçon manqué qui fait du foot, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, ça, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus en tout cas ce ressenti-là. Et mes enfants le vivent très bien. Enfin, mes filles n'ont pas ce truc de se dire, il m'a dit que j'étais un garçon manqué, ça n'existe plus, ça. Enfin, j'ai l'impression, heureusement, en tout cas. Donc voilà, mais oui, ça a fait du chemin, ça, c'est sûr.
On voit aussi avec la plus grande médiatisation l'arrivée de rôle modèle, comme on dit finalement. Il y a des joueuses, je ne sais pas moi, Alexia Putella, ce genre de choses, qui commencent vraiment à devenir connues.
Tout à fait.
Est-ce que ça joue un rôle aussi? Alors, vous avez deux filles qui jouent au foot. Est-ce que le fait de pouvoir s'identifier, non pas à des joueurs masculins, mais à des joueuses féminines, je dirais, est-ce que c'est aussi un changement de paradigme qui potentiellement amène aussi peut-être plus de joueuses au sein des clubs, je sais pas.
Ah oui, complètement. Ouais. Enfin, on a été à Barcelone en voyage de city trip, j'ai envie de dire, avec mes enfants. Et la première chose qu'une de mes filles m'a demandé, c'est je veux un maillot d'Alexia Putellas. Mmh. Donc chose que à l'époque, nous, on ne s'identifiait à aucune joueuse féminine, puisqu'en fait, elle n'était pas médiatisée, donc on ne connaissait pas. Il y avait l'équipe féminine belge, mais on n'avait pas de nom réellement à qui s'identifier. Donc nous, on s'identifiait plutôt à des joueurs masculins, quoi. Hein. Donc à l'époque, pour moi, c'était Ronaldo, mais le Ronaldo de le Brésilien. Voilà. Mais on s'identifiait plutôt à ce genre de joueurs. On n'avait pas d'image féminine, en fait. Et maintenant, c'est génial parce que je trouve que les filles peuvent s'identifier. Et encore plus avec l'engouement de la Coupe du Monde qu'il y a eu dernièrement. Il y a des noms qui restent. Enfin, mes filles sortent des noms de joueuses de foot que, avant, ça n'existait absolument pas, quoi. Donc oui, je pense que là-dessus aussi, je pense que la médiatisation du football féminin fait du bien, quoi.
Clotilde Coden, avec le nombre de... l'augmentation du nombre d'affiliations, quand on se parlait, vous me disiez, c'est bien, mais on est encore loin, finalement, des objectifs qu'on s'est fixés à la CFF. C'est quoi vos objectifs, finalement?
Oui, mais effectivement... Allez, le sport, ça reste un miroir de la société, et d'autant plus dans le foot qui brasse autant de personnes, autant de monde, autant de pans de la société... À l'heure actuelle, il faut viser haut quand même parce qu'on a dans la société 50% d'hommes pour 50% de femmes. Alors pourquoi le football ne respecte pas ce calcul?
Oui, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on a environ un petit 10%. Enfin, les femmes représentent environ 10% des affiliés, ce qui reste quand même assez maigre, finalement, en termes de quantité, j'entends.
Oui, tout à fait. Mmh. On a franchi la barre des 10% d'affiliés. Bah, ça reste minoritaire, mais maintenant, c'est significatif.
Oui. Oui, et quand on voit les chiffres par rapport à 2015, mais avant, effectivement, on voit qu'il y a quand même une augmentation qui est assez conséquente. Donc,
oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai même retrouvé ici, pour le podcast, des chiffres de 2012, où on était à 5000 membres féminines. Ouais. On est aujourd'hui en 2023 à 21 500 filles en ACFF.
Côté
attention,
francophone, il faut préciser. Mais en Flandre, en tout cas, l'évolution des chiffres est du même acabit.
À l'image aussi de la démographie, il y a 60% de personnes flamandes pour 40% de personnes wallonnes, Bruxelles pris avec. Donc oui, effectivement. Mmh.
Vous évoquiez le fait qu'il y a quand même encore des préjugés qui existent. Ils existent où ça et comment? Je veux dire, est-ce que c'est au niveau des clubs? Est-ce que c'est au niveau des parents? Enfin, que j'ai entendu beaucoup de choses dans le cadre de mon reportage, donc j'ai déjà des idées en tête, mais dites-moi un peu.
Pour moi, dans le cadre de mes fonctions, c'est surtout au niveau des parents que les préjugés résident, parce que ce sont les parents qui sont décisionnaires finaux de l'activité sportive des enfants. Et donc, à l'heure actuelle, il faut aller avec notre bâton de pèlerin, arriver à les convaincre, arriver à expliquer, arriver à informer, surtout, c'est surtout de l'information. Et si on n'y arrive pas, on va trouver une alternative. Et en l'occurrence, ici, dans le cadre de nos activités, on se rend directement dans les écoles. Mmh. Et au niveau du primaire, là, les enfants ont un pouvoir décisionnel auprès de leurs parents. Donc, on espère qu'ils soient notre porte-parole pour pouvoir nous rejoindre dans le monde du football.
Vous évoquez les parents, je veux dire, est-ce que donc ça, c'est-à-dire qu'il y a encore cette image finalement que le foot c'est pas pour les filles, en tout cas dans la tête de certains.
Oui, culturellement, très certainement. Maintenant, on voit que les choses changent. Il y a de plus en plus de personnes qui sont convaincues et donc qui sont les meilleures porte-paroles à notre niveau. Et que ce soit au niveau de nos activités, donc d'essayer vraiment de sensibiliser à la base les enfants, les parents, les clubs, mais le porte-drapeau de l'équipe nationale est aussi essentiel. Mmh. On le constate avec Tessa Hullart, avec qui on a collaboré dans le cadre de deux activités, et notre taux d'inscription, il a explosé, et notre taux de participation aussi. Donc oui, on a vraiment ce côté médiatisation, visibilité, information et notre bâton de pèlerin encore au quotidien.
Oui, effectivement, on voit que y a quand même un engouement autour de l'équipe nationale. Il y a cette candidature potentielle de la Belgique pour l'organisation de la Coupe du Monde, semble-t-il, c'est ça. Est-ce que ça pourrait avoir un effet finalement démultiplicateur, je ne sais pas, Laura Catita?
Oui, probablement que oui. Oui, je pense bien, parce que déjà rien que là, la dernière Coupe du Monde, je veux dire, il y a déjà eu un engouement plus important pour le football, je pense. Ici, je pense que si ça s'organise en Belgique, en l'occurrence, parce que je crois que ces trois pays, c'est Belgique, Allemagne et Pays-Bas, c'est ça. Je pense que oui, alors là, je crois que l'engouement sera plus important encore. Quoi. Ouais. Et ça serait bien.
Ce serait fantastique. Ce serait vraiment, super. Ce serait fantastique parce qu'on va pouvoir bénéficier de moyens, pas seulement financiers, mais aussi humains, de visibilité, de médiatisation, d'engouement, parce qu'on ne va pas retirer le petit côté « Ok, on est belge et ça s'organise, c'est une compétition majeure qui s'organise chez nous. » Et tous les pays qui ont pu bénéficier de genre de compétition majeure, tous sports confondus, ont constaté un pic dans leur affiliation, dans leur nombre d'affiliations.
On a évoqué les parents, il y a les clubs. Alors bon, je vous dis, moi, quand j'ai pris mon bâton de pèlerin et que j'étais me promener un peu partout, j'ai quand même été parlé à quelques responsables de clubs. En général, c'était des clubs qui avaient développé fortement le pan féminin, donc qui avaient plutôt un regard, qui étaient dans une démarche positive. Mais certains me disaient, il y a encore beaucoup de clubs qui ont juste une équipe première ou qui font jouer les filles sur un quart de terrain pendant que les garçons s'entraînent à côté. On m'a dit, c'est quand même encore une réalité qui a la vie dure. Qu'est-ce que vous pensez de ces affirmations?
Oui, mais c'est un constat de terrain. En fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de... La majorité des clubs accueillent les filles. Hein, vraiment, c'est très rare, les clubs qui n'accueillent pas les filles. Moi, une des problématiques que j'essaye de solutionner, c'est en fait le fait de dire « Ok, vous investissez dans le développement du football féminin, mais par quel biais ? Est-ce que le fait de mettre une équipe première, donc un produit qui est fini, est vraiment positif pour le développement et pour l'atteinte des objectifs que vous avez fixés ?» Et donc, on a on a quand même tendance à avoir quelques similitudes, football des hommes, football des filles, et quelques différenciations aussi, surtout au niveau de la formation des jeunes, parce que les clubs ne prennent pas directement conscience de l'importance de d'abord former les filles, et à la fin, pouvoir créer cette équipe féminine. On a d'abord cette équipe première féminine, et puis on se dit, est-ce qu'on ne formerait pas d'abord les filles ? Donc voilà, mais après, heureusement que ces clubs-là s'investissent tout de même à leur façon dans la mise en lumière des filles dans le football.
Alors ici, vous soulignez quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, finalement, la plupart des clubs qui font jouer des filles, si je peux utiliser ce terme-là, ce sont des clubs à la base, entre guillemets, enfin, si on peut le dire, masculins, qui n'ont pas d'équipe d'âge filles, et qui en fait font jouer les filles dans les équipes de garçons, entre guillemets. C'est mixte. À côté de ça, vous avez tous les deux une relation assez profonde avec le FC Finamboisard, qui pour le coup est un club exclusivement féminin. Donc il y a cet enjeu-là, finalement, entre guillemets, club purement féminin ou club mixte, j'entends. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut favoriser la mixité ou bien est-ce qu'il faut développer des équipes d'âge purement féminines ? Je ne sais pas, Laura Catita, comment est-ce que vous voyez les choses ?
Alors, c'est vrai que ici, c'est la fierté du club du Femina White Star, c'est d'avoir un club exclusivement féminin. Et quand mes enfants ont voulu faire du foot, je ne me suis pas posé de questions. Je veux dire, c'était là et pas ailleurs. C'est un club qui me tient à cœur, ça c'est sûr. C'est là où j'ai fait mes années de foot. Je n'ai pas été voir ailleurs dans un autre club après. Donc, en soi, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les deux. Je veux dire, il y a des filles qui s'impliquent beaucoup dans le football et qui, du coup, progressent très, très bien dans les équipes de garçons. Et donc, ce qui serait génial, ce serait, comme dit Clotilde, d'arriver à avoir ces équipes formatrices avant qu'elles n'arrivent à une équipe première. Mais c'est vrai que, ça demande plus de médiatisation. Ça demande que ça se connaisse plus, enfin de se faire plus connaître au sein des clubs et voilà, maintenant je sais qu'il y a des parents qui veulent que les filles en fassent quelque chose et qui les mettent expressément dans des équipes de garçons. Et donc il faut peut-être sortir un petit peu de cette image là et essayer de justement créer des équipes beaucoup plus jeunes avec un niveau et essayer de les former. Mais c'est encore une réalité de terrain pour l'instant, c'est celle-là, c'est qu'il y a des équipes de garçons et quand on commence chez les garçons, on évolue très très bien aussi et donc voilà.
Ça veut dire que peu de gens, moi, enfin, franchement, je pense que je le savais, mais peu de gens savent en fait qu'on peut commencer en tant que fille dans une équipe de garçons. Est-ce que les gens le savent, ça ?
Non, je pense que non, ils sont pas assez informés. Hein, on en revient à ce qu'on disait préalablement. Ils sont pas assez informés tant pour débuter en mixité que la fin de la mixité. Donc en fait, à l'heure actuelle, le règlement fédéral, nord et sud du pays confondu, fait que les filles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à 18 ans. Encore la semaine dernière, je discutais avec un arbitre qui me disait « Mais non, c'est jusque 15 ans. » Mais non. Non, on peut jouer avec les garçons dès le plus jeune âge, jusqu'en fait à l'atteinte de la majorité. Et ce choix de stopper la mixité, il est simplement fait parce qu'après, il n'y a plus d'équipe de jeunes et qu'on est dans des équipes seniors. Mais si on pouvait, je pense, vraiment continuer à faire de la mixité tout au long de sa carrière, ce serait aussi intéressant d'un point de vue évolution des mentalités. Après, il faut aussi remettre en perspective la sécurité des joueurs et des joueuses et donc la différence de masse musculaire, de vitesse, de force, mais aussi en péril la santé de la joueuse.
Ça m'est revenu une fois ou deux dans des entretiens que j'ai pu avoir, des dirigeants de clubs qui disaient on a des équipes de filles, alors pour le coup des équipes de filles complètes, mais qui jouent dans des ligues en fait où elles jouent contre des équipes de garçons. Et j'ai eu un ou deux dirigeants qui me disaient quand les garçons commencent à se mettre un ou deux dribbles par les filles, ils commencent un peu à s'énerver, les parents les excitent, et puis de temps en temps il y a un tac qui se perd, et ils disent moi j'ai déjà eu des joueuses qui ont été blessées gravement en fait à cause du, on va dire, de peut-être de la fierté blessée des joueurs, mal placés. Est-ce que c'est un enjeu, ça ? Est-ce que les joueurs aussi, masculins, j'entends, doivent faire un travail sur eux-mêmes aussi à ce niveau-là ?
Oui, très certainement. Je me permets de te reprendre la parole. Oui, très certainement, mais je crois que c'est vrai aussi pour plein d'autres choses, en fait. On constate sur les terrains de football jeunes, de la violence, du racisme, du sexisme, et j'en passe. Et donc, il y a vraiment un travail à faire sur cet aspect de probablement, c'est la compétition qui amène ces problématiques, mais aussi sur un aspect personnel de plein de choses. En fait, c'est la personne là qu'on remet en question, et c'est aussi tous les pans de la société, et aussi tout ce que tous les stéréotypes et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur un terrain de foot. Ouais.
Pour encore approfondir cette question finalement de équipe d'âge féminine ou pas, je crois vous, Clotilde Cladel, vous étiez assez favorable à cette mixité, parce que vous disiez c'est comme ça qu'on va faire changer les mentalités, en intégrant finalement les filles et les jeunes filles dans les équipes entre guillemets masculines. Parce qu'en fait, on peut dire c'est un club. Donc parler finalement de masculin-féminin, c'est peut-être complètement idiot. Finalement, c'est un club de foot et on accueille tout le monde.
Oui, c'est ça, tout parce à que, fait. Voilà. Et d'autant plus chez les jeunes. Après, je dis pas, hein, une fois que le côté... qu'on devient une jeune femme, un jeune garçon, peut-être que là, il y a d'autres perspectives, d'autres envies, par exemple être avec ses pairs dans un milieu social très, très défini. Mais en tout cas, avant le pic hormonal, fille, garçon, c'est un enfant. Physiologiquement, biologiquement, un enfant est un enfant. Pourquoi déjà dire, OK, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, c'est un peu ce débat-là. Maintenant, il y a vraiment à questionner à l'heure actuelle cette mixité, cette non-mixité. Je pense qu'on doit d'abord être conscient qu'on doit offrir des opportunités de pratique. Donc, celui, celle qui veut jouer en mixité, celui, celle qui veut jouer en non-mixité, on doit en avoir conscience et réfléchir par rapport aux opportunités qui existent à l'heure actuelle et ou qui devraient exister.
Alors, on évoquait effectivement cet enjeu de mixité, et on évoquait la formation aussi. Après la formation, il y a l'équipe première. Alors ici, on va passer vraiment de la formation au club de Super League, qui à l'heure actuelle est la plus haute marge du foot féminin. On a vu que récemment, le Standard féminin a décidé de mettre une partie de ses joueuses, et à terme, je pense, toutes ses joueuses sous contrat professionnel. J'imagine que c'est une bonne chose, Laura Catita. Je veux dire, si vous aviez pu bénéficier de ça à l'époque,
ça aurait été super.
Est-ce que vous auriez dit oui finalement?
Ah oui, j'aurais dit oui, évidemment. Ouais. C'est vrai que quand on est dans ce milieu-là, et que, bon voilà, après on évolue, on arrive en D1, clairement que là, à ce moment-là, si on proposait des contrats, c'était le summum, quoi. Maintenant. Ça prouve bien que le football féminin évolue. Et donc, si on commence déjà à donner des contrats professionnels à des joueuses, c'est qu'on a fait un pas en avant, clairement. Et donc, maintenant, je pense qu'il y a encore des pas en avant qu'il faut faire et quelques-uns. Mais toutes les joueuses de Super League ne sont pas sous contrat. Et pourtant, l'enjeu, le travail, l'engouement est le même. Et c'est encore là-dedans qu'il faut encore bien progresser. Chez les hommes, ils sont tous sous contrat. Dès qu'ils sont en D3, en D1, en D2, Ici, on arrive à la plus haute marche du football féminin. Et on n'a que quelques contrats professionnels. Ouais. C'est déjà très bien, mais c'est jamais assez encore. Je pense qu'il faut encore... je suis sûre qu'il faut avancer, quoi.
Oui, parce que j'imagine que pour les joueuses, il faut être motivé. Quand on joue, quand on s'entraîne, je pense, 3 fois par semaine...
Et qu'on travaille.
Qu'on travaille et qu'il y a un match, et qu'à côté de ça, on bosse, effectivement, c'est...
Oui, c'est... C'est difficile. Je pense que, la plupart des joueuses en Super League, en tout cas au Femina White Star, travaillent. Elles ont un travail à côté. Elles viennent s'entraîner après. D'autres viennent de très loin. Et finalement, les demandes d'investissement sont les mêmes que pour une joueuse qui est sous contrat. Et donc, c'est un peu presque inadmissible que ça n'existe pas encore. Mais voilà, je pense que le football doit encore faire quelques pas en avant. Et on y arrive doucement, mais sûrement, quoi.
Justement, Clotilde Coden, vous êtes joueuse au FC Femina West Ham aussi.
Donc, oui, tout à fait.
Vous combinez les deux. Comment est-ce qu'on combine ça, finalement? Comment est-ce qu'on vit ça au jour le jour?
Eh bien, on est content quand la trêve va arriver. Non, mais oui, effectivement, après, c'est une réalité où on est consciente en tant que joueuse de cette réalité-là. On est consciente que notre temps de repos est vraiment très, très important et qu'on doit adapter nos horaires, adapter notre vie professionnelle, notre vie personnelle à la pratique du football. Maintenant, ça témoigne aussi de toute la motivation des filles actuellement dans le football. C'est énorme. Elles sont dans la pratique du football au plus haut niveau pour le plaisir du jeu, mais pas pour gagner leur vie.
Pour la gloire.
Donc, il faut tout remettre en perspective. Et donc, il y a aussi cette question de dire, OK, comment on va faire pour performer, pour atteindre le plus haut niveau possible avec ces conditions-là. C'est une question d'adaptation, c'est aussi une question de résilience de la part de chacune, parce que tout le monde ne va pas répondre de la même manière et tout le monde ne va pas avoir le même ressenti. Et donc oui, on travaille pour ça et on essaye de s'adapter au quotidien.
Laura Catita, vous avez donc été kiné. Oui. Oui, ouais, ça, vous me disiez, je pense, quand on s'est vu, que pour vous, les joueuses, c'était des guerrières, vraiment, parce qu'il y a vraiment cette combinaison entre...
Ah oui, vraiment.
Donc voilà, ouais.
Oui, tout à fait. Enfin, moi, pour avoir été dans les coulisses, on va dire, du haut niveau, oui, les filles, malgré le fait qu'elles n'ont pas de contrat et qu'elles le font vraiment, en fait, par plaisir et l'envie de jouer, quoi. Hein, et dire à une fille qui est blessée, tu vas te reposer, tu vas pas jouer ce week-end, elles l'entendent pas vraiment. Hein. Mmh. Il y en a beaucoup qui ne l'entendent pas comme ça et qui disent non, ça va aller. Donc, c'est vraiment des guerrières qui le font pour l'amour du sport, quoi, du jeu. Mmh. Et donc, pour moi, je veux dire, c'est ça qui les motive à continuer, quoi. Parce que vraiment, la demande d'investissement est énorme.
Mmh. Alors, Laura Catita, vous évoquiez le fait que vous avez recommencé à jouer au foot il y a quelques années. Mmh. Alors, je pense que vous jouez dans une ligue assez particulière qui s'appelle la Belgian Bright Football League, c'est ça ?
C'est ça, c'est la BBFL.
Ouais. Expliquez-moi un peu ce que c'est, peut-être.
Alors, la BBFL, bon, je l'ai découverte il y a maintenant 4-5 ans via une collègue, en fait, qui faisait du foot dans une équipe, dans cette ligue-là, que je ne connaissais pas, en fait, à l'époque. Et donc... je ne savais pas qu'il y avait une ligue complètement amateur féminine qui se développait à côté du sport en club qu'on connaît. Elle m'a dit, si tu veux jouer au foot, viens chez nous et essaye. Et en fait, c'est une ligue qui est ouverte à tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on joue entre adultes. Donc, je pense que la moyenne d'âge, c'est à partir de 18 ans, 16 ou 18 ans. Et donc, le principe, c'est de venir jouer au foot, de donner l'opportunité à tout le monde qui a envie de faire du sport, en fait, et de jouer au foot sans avoir forcément un niveau à la base. Je dis à la base parce que, au plus on progresse, et au plus les championnats, au plus il y a de l'engouement. Il y a des niveaux, différents niveaux d'équipes qui se créent. Et donc, je ne pense pas que maintenant, les équipes qui jouent tout en haut du classement acceptent n'importe qui vient jouer au football. Mais bon, voilà, ça, c'est on va dire que c'est l'enjeu, c'est comme ça. Mais par exemple, dans l'équipe dans laquelle je joue, qui est la compagnie, quand on crée des recrutements, on va dire, en fin de saison, puisqu'en fait, c'est un roulement où ça bouge tout le temps, donc comme on travaille toutes, finalement, il y en a qui tombent enceintes, et puis il y en a qui partent travailler ailleurs, et donc chaque fin de saison, on est obligé de recruter un petit peu, et au final, on voit que ce sont des filles qui n'ont jamais touché de ballon, qui ont envie de faire du foot, en fait. Et donc, ce qui est très marrant, parce que... finalement, les filles qui n'ont jamais touché un ballon, après une saison, elles sont quand même capables d'en toucher un. Donc c'est assez marrant de voir cet engouement aussi pour le football, même à l'âge adulte, en fait. Hein. Finalement, on n'a pas 11-12 ans, mais on a des filles qui ont 20, 25, 30. Et donc c'est assez sympa. Et c'est vrai que l'esprit, finalement, de la BBFL, c'est vraiment jouer pour le fun. Et donc, c'est vraiment faire du football, mais pour le fun. Et donc ça crée un engouement énorme, puisqu'en fait, quand on joue les playoffs qui se jouent sur une journée, en fin de saison... l'année passée, on avait 6000 personnes qui participaient qui participaient et qui sont venues en tant que spectateurs. Ouais. Quoi, hein. Donc, c'était vraiment énorme comme événement. Et donc, on voit un petit peu aussi cet engouement pour le football féminin. Et alors, moi, en tant que vétéran, si je peux dire, à mon âge, de reprendre le football à 36 ans, pour moi, c'était parfait parce qu'au final, ça permet de continuer sa vie professionnelle, d'avoir une vie familiale et d'au final se dire, je vais une fois par semaine faire ou l'entraînement ou le match et au final, je fais du sport, je vois des gens, je bois un verre. Enfin, voilà, il y a le côté un peu social aussi qui est très sympa. Et clairement, les troisièmes mi-temps en BBFL sont assez sympas.
Ça donne envie.
Alors, le principe de la BBFL aussi, c'est qu'on reste sur le fair play, c'est hyper important. Et donc, généralement, en fin de match, on boit un verre avec l'équipe. Ou en tout cas, on invite, quand c'est chez nous, l'équipe adverse à boire un verre avec l'équipe, notre équipe, quoi. Ouais. Et donc, c'est assez sympa parce que ça reste assez, assez fair play malgré l'enjeu et malgré le fait que quand on joue, on veut gagner.
Ça joue,
ça joue. L'ambiance est bonne. C'est ça qui est chouette aussi. Et donc, voilà, j'ai plus le niveau pour jouer en club. Et donc, ça permet de continuer à faire du sport en amateur tout en gardant un pied dans le football, quoi. Ouais. Ça, c'est chouette.
Il y a du monde, vous disiez, évidemment, durant les playoffs. C'est assez étonnant.
Oui. Et c'est assez particulier que je me demande pourquoi, au final. Hein, pourquoi cette BBFL arrive à rassembler autant de monde sur une journée de playoffs qu'on voit pas forcément encore dans des matchs comme en Super League où parfois on a du mal un petit peu à ce que les supporters viennent supporter les équipes. Et quand on voit que sur une journée où on a des tribunes pleines et des gens qui savent pas où s'asseoir, c'est fou quand même dans le milieu du football amateur féminin, quoi.
Ouais.
Et donc voilà.
Comment est-ce que vous voyez, parce que pour le coup c'est quelque chose de complètement indépendant, c'est une ligue qui s'est créée Voilà, enfin, sur le côté, ouais. J'ai envie de dire. Enfin, comment est-ce qu'on voit ça à la CFF? Vous vous dites, tiens, c'est génial, ouais. Ça permet de populariser le football féminin.
Oui, très ouais. Certainement. Ouais, ouais, c'est super de donner l'opportunité aux femmes, et plus seulement aux filles, de jouer selon leurs conditions, en fait. Allez, on parle de maman, on parle de personnes qui travaillent, de personnes qui n'ont plus envie de s'investir trois fois semaine dans un club, dans une structure aussi rigoureuse. Et moi, je trouve que ça... C'est énorme, vous l'avez mis en avant, cette visibilité, en tout cas le nombre de personnes qui se rendent pour les play-offs. Allez, c'est un argument de poids à mettre face aux détracteurs du football féminin. Ouais. Allez, souvent on entend, ouais, personne au football des filles, oui, dans les matchs de Super League. Et c'est vrai, mais là on a la preuve que ça fonctionne. Moi, il y a aussi une autre chose que j'apprécie au niveau de la BBFL. C'est que c'est relié à une association qui lutte... Tu en parleras mieux que moi.
Bah alors, je ne connais pas exactement... Enfin, je ne vais pas parler de...
Ils ont des projets sociaux.
Oui, c'est ça. Ils ont des projets sociaux. Maintenant, je ne sais pas dire lesquels exactement. Mais je sais que, voilà, il y a une partie, je pense, de la cotisation par joueuse qui, effectivement, est reversée à une association ou même plusieurs associations. Je sais que, de temps en temps, pendant l'année, ils créent des événements du style courir 500 km en équipe pour telle association. Enfin, sont des choses... Enfin, ils sont très engagés, en tout cas. Et donc voilà, bah, y a ça en plus aussi qui est très chouette. Donc voilà.
Alors, on évoque finalement le. Alors, déjà, peut-être qu'on aurait dû le faire en amont de ce débat, parce que moi, ici, depuis le début, je prends des précautions oratoires. Je dis football au féminin. Il y a football féminin une fois ou deux qui m'a échappé. Parce que c'est comme ça qu'on le définit. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait presque un enjeu sémantique. Enfin, on l'a un peu évoqué ensemble. En tout cas, certains interlocuteurs à qui j'ai pu parler me soulignaient ça. Cette idée que le football féminin, finalement, a un côté un petit peu péjoratif, comme si on le distinguait du football masculin, que c'était pas le même sport finalement, ou en tout cas pas la même discipline. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cet enjeu? Est-ce que finalement c'est important, ou bien est-ce qu'on coupe un peu les cheveux en quatre, j'en sais rien, que tu le codonnes?
Alors, moi je suis tout à fait pour le terme football au féminin, parce que je trouve effectivement qu'il y a un petit côté péjoratif à football féminin, mais maintenant à l'heure actuelle, je l'utilise tout le temps, ce terme football féminin. Mais parce qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres batailles à mener pour l'instant. Et il y a peut-être aussi trop d'habitudes qui sont ancrées en moi et au niveau de mes différents interlocuteurs. Oui. Mais la question se pose vraiment.
Laura Catita, ça vous dit quoi ce débat? Est-ce qu'on débat sur le sexe des anges finalement, ou bien est-ce que c'est justifié?
Mais en fait, c'est assez marrant parce que à mon époque, football féminin pour moi c'était tout à fait normal de le dire, parce qu'au fait, au final, bah oui, on avait accès qu'à ça clairement. Entrer dans une équipe de garçons, il y en avait même qui refusaient. Donc non, c'est une fille, donc on prend pas les filles. Enfin voilà. Donc je pense que dire football féminin, c'était quand même quelque chose à part. Donc en fait, comme dit Clotilde, je pense que réellement c'est resté ancré quelque part. Donc moi, quand on me le dit, ça ne me choque pas. Mais quand j'y pense, oui, j'ai envie de changer le terme parce que bah quand je vois mes filles aujourd'hui, elles me disent pas je fais du football féminin. Quand on leur demande, elles disent je fais du foot, c'est tout. Et donc au final, je pense que, alors ça reste le même sport avec les mêmes règles, je pense qu'il se gère différemment, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, c'est peut-être ça la différence, mais en soi, pour le jeu, ça reste du foot quoi. Enfin, c'est la même chose.
On a évoqué ça, c'est une des choses que j'ai pas mis dans l'article parce que j'avais tellement d'infos et je suis limité, mais c'est, effectivement vous m'expliquez que pour vous en tout cas il y avait une gestion parfois du sport ou même des ressources humaines entre guillemets, si je peux dire, des choses qui étaient un peu différentes, enfin, expliquez-moi comment est-ce que vous voyez ça.
Alors, je pense que composer avec des filles, on ne compose pas de la même façon qu'avec des garçons et inversement. Je pense que chez la fille, il y a tout le côté féminin, il y a la psychologie qui n'est pas la même. Et puis, il y a les problèmes menstruels que les filles rencontrent, que les garçons ne rencontrent pas. Et pour la pratique du sport, ce n'est pas si simple. Il y a toutes des études qui ont été menées. Là, je parle un peu en tant que kiné, en tant que soignante dans les coulisses du White Star. Les ligaments croisés, la rupture des ligaments croisés arrive nettement plus souvent durant le cycle menstruel de la femme. Ou peu avant, ou peu après, mais en tout cas, c'est souvent lié aux hormones. Et donc, évidemment, ça ne va pas se gérer de la même façon. Alors, en Belgique, on n'est pas encore là-dedans. Mais par exemple, aux États-Unis, on est déjà un pas beaucoup plus loin. On prend ça vraiment en considération. Et donc, les joueuses ont vraiment, en fonction de leur calendrier, des entraînements et des traitements spécifiques pour éviter justement ce genre de blessure. Bon, ici, en Belgique, je pense qu'on est encore occupé à avancer là-dedans. Maintenant, c'est quelque chose qui est connu des soignants, c'est connu des médecins, c'est connu des kinés. Et donc, c'est pour ça que je pense que le football féminin ne se gérera pas de la même façon que le football masculin. Parce qu'il y a cet aspect à prendre en compte. Et une fille, durant son cycle, ne va peut-être pas être aussi performante que quand elle n'est pas durant son cycle menstruel. Et donc ça, je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre en compte, et surtout en tant qu'entraîneur, en tant que soignant, en tant que... Donc voilà, moi, il y a une grosse différence là-dedans. Et là, je parle en tant que soigneur.
Ouais. Dans le cadre du papier, j'ai rencontré plusieurs dirigeants, au fond, plusieurs entraîneurs de clubs, de sections féminines de clubs, mais qui, pour le coup, étaient souvent des hommes. Et il y en a un qui me disait, effectivement, il me disait, en période menstruelle, il dit, moi, parfois, j'aimerais que les joueuses viennent me parler, mais en même temps, il me disait, qui suis-je, moi, qui suis un homme, pour venir commencer à leur parler de ça? Elles savent bien mieux que moi. Donc là, je sentais qu'il se sentait un petit peu... Mais c'était une question, en tout cas, dans son esprit. Je trouve ça super intéressant. Et je me dis, finalement, ça amène aussi, peut-être quasiment aussi à la... question de la féminisation aussi des cadres, j'entends. Est-ce que finalement une entraîneuse pourrait être plus à même de comprendre en fait cet enjeu-là ou pas finalement? Et donc, et aussi, est-ce qu'il faut travailler aussi à la féminisation des cadres? Alors, j'entends entraîneuse, coach, arbitre. Est-ce que c'est un enjeu aussi, notamment au sein de la Fédé ou bien...
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a besoin de plus de femmes dans nos staffs encadrants, très certainement. Pas seulement pour cette relation fille-entraîneur. Mais aussi pour en fait avoir d'autres points de vue, d'autres sensibilités, d'autres rapports. Allez, on a besoin de femmes pour encadrer nos plus petits aussi. On a besoin aussi de donner aux joueuses des opportunités de rester dans la pratique à la fin. Allez, de leur donner des perspectives d'avenir. Et on a besoin d'entraîneurs féminins pour aussi jouer ce rôle de modèle. Ce qu'un enfant voit, un enfant le fait. Mmh. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est essentiel de féminiser nos cadres. D'ailleurs, le département formation des cadres lance de manière régulière...
De la fédération,
vous. De la fédération, de la CFF, ouais, a lancé ici dernièrement un UFAC et un brevet B 100% féminin. Non pas pour dire, OK, on laisse les filles avec les filles, les garçons avec les garçons.
Pour les entraîneuses.
Ouais, c'est ça. Mais plutôt pour dire, OK, en fait, n'ayez pas peur d'être au milieu de 25 cocos et venez avec nous dans un cadre safe, en fait, pour pouvoir vous former à la formation des jeunes.
Oui. Donc, ça, effectivement, c'est important. Je réfléchis toujours là-dessus. Et je perds le fil de mes idées, c'est pas grave. Laura Catita, sur cette féminisation des cadres, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites aussi, tiens, c'est une bonne chose.
Ah oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, comme dit Clotilde aussi, c'est aussi pour avoir un petit peu cette image aussi féminine à laquelle se raccrocher un petit peu et de se dire, s'il y a des choses qu'on a envie de parler plus à une fille, ça permet de favoriser ces choses-là. Alors maintenant, je prends un peu l'exemple des grosses équipes d'élite qui, un peu partout, que ce soit Barcelone féminin, que ce soit Juventus, etc., parce que j'ai participé à différents congrès, ils le font, ils mettent exprès, évidemment, ils vont chercher que ce soit des staffs mixtes, en fait, que ce soit aussi bien composé de femmes que d'hommes, que ce soit des préparateurs physiques, mais une préparatrice physique, une kiné, mais un kiné aussi. Enfin, ils mélangent un petit peu de manière à ce qu'on puisse travailler presque en 50-50, quoi. Ouais. Et donc, moi, je trouve ça très bien, parce que à l'époque, on n'avait que des entraîneurs, et c'était tout, quoi. Enfin, je veux dire, là, maintenant...
Puis même temps qu'on avait les entraîneurs, en fait, qui avaient été rejetés des équipes hommes. Donc, eux voulaient rester, garder un pied dans la pratique du football. D'accord. Et donc, on avait vraiment le fond du panier.
Ça change tout doucement, quand même.
Oui. Ouais, heureusement. Certainement. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est qu'à partir du moment où un homme qui n'est pas forcément convaincu par le football féminin, mais arrive dans le football des filles, il ne le quitte plus.
Ouais.
Le mindset, la compréhension du jeu, le retour aussi des joueuses, on rappelle, elles sont alimentées vraiment pour le plaisir du jeu. Et ce retour-là, en tant que formateur, c'est énorme.
Alors ça, c'est un des enjeux aussi qui est revenu, parce que finalement... On parle beaucoup ici du foot au féminin. Il y a le foot masculin qui est, on va dire, hypertrophié à l'heure actuelle, si on peut utiliser ce terme poli. Je suis en tant que fan de foot, donc je suis bien placé. C'est vrai qu'il y a quand même, parmi, on va dire, les fans de foot, il y a quand même des questions sur cette hypertrophie du football masculin. Est-ce que finalement, on n'a pas été trop loin, finalement, dans le foot business, finalement? Est-ce que c'est pas en train de dénaturer complètement l'esprit du jeu? Alors, au niveau du foot au féminin, on en est encore loin, mais est-ce que finalement, il y a un enjeu? Est-ce qu'il faut finalement que le foot au féminin trouve sa voie pour se développer, continuer à se développer, mais sans tomber finalement dans les travers qu'on peut éventuellement constater du côté masculin, en tout cas dans les plus grands clubs et les plus grandes compétitions? Je sais pas, Laura Catita, vous qui avez connu
j'ai tout connu
qui avez connu cette évolution, vous dites, tiens, il faut quand même faire gaffe.
Oui, alors je pense qu'on est encore très très loin de cette hypertrophie, hein, c'est sûr. Pour moi, le football féminin doit encore, enfin, ou au féminin si on peut le dire, doit encore énormément progresser, je pense, déjà pour donner des contrats aux filles qui sont en droit de l'avoir, par exemple. Je pense que là-dedans, il faut encore progresser. Maintenant, quand vous allez voir un match de football féminin, vous êtes dans la pureté du jeu, en fait. Hein. Vous n'allez jamais voir des filles qui se roulent par terre pendant, où on arrête le chrono pendant 5 minutes, et puis on recommence, et puis on arrête le chrono pendant 5 minutes parce que ça se roule encore par terre. Les filles, elles saignent du nez, elles continuent à courir, quoi. Enfin, c'est des guerrières, comme je dis. Donc en soi, on est encore dans cette... Alors je dis pas qu'il faut saigner du nez, hein, c'est pas ça, mais je dis, on est encore dans les règles du foot, le jeu, le pur jeu du foot, quoi. Hein. Et donc on se donne, et voilà, il n'y a pas de cinéma, quoi. Beaucoup moins de cinéma qu'évidemment quand on regarde un match de football masculin, et je pense qu'il est un peu entaché par ça. Enfin, je veux dire, bon, voilà, après, je dis pas, hein, je continue à regarder les matchs de foot à la télé, les Champions League, les Coupes du Monde, mais c'est vrai que quand on compare, vous regardez la Coupe du Monde féminine, enfin, c'est rare que l'arbitre arrête son chrono parce qu'il y en a trois qui se roulent par terre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Et ça, je trouve que, voilà, le football féminin n'est pas encore entaché par ça, et j'aimerais pas qu'il le devienne à un moment donné, mais ça serait bien qu'on puisse valoriser un peu plus le football féminin, ça, c'est sûr.
Quand on est dans une fédé, est-ce que c'est et qu'on est de travail à cette valorisation du foot au féminin, est-ce que c'est quelque chose auquel on pense, ou bien ça part encore tellement loin finalement qu'on se dit bon, c'est des problèmes de riches entre guillemets, on y viendra après.
On a toujours tendance à comparer hommes-femmes, football féminin au féminin, football masculin. Moi, j'ai la réflexion d'essayer de prendre conscience, de me dire ok, en fait, il faut un peu laisser tomber le football masculin parce qu'on est vraiment, comme vous l'avez dit, dans cette hypertrophie. Et si on compare ici le football des filles aux autres sports, à la place de la femme dans les autres sports, on n'est pas si mal, hein, quand même. On n'est vraiment pas si mal. Donc, regardez d'où on vient, regardez où on va et arriver à, sur cette échelle, arriver à situer d'année en année, de mois en mois, et sur du court, moyen et du long terme.
Un enjeu encore aussi, finalement, c'était de se dire, il y a de plus en plus d'affiliés. Alors, effectivement, on n'en est pas encore... je continue à comparer au masculin, mais finalement, certains dirigeants de clubs m'ont dit, dans certains clubs qui sont très demandés, on commence parfois à opérer une sélection, en fait, chez les jeunes filles qui arrivent. C'était pas le cas avant. Et donc certains m'ont dit, ouais, nous on a quand même toujours eu une visée sociale au sein du club. Il y avait comme cette idée d'accepter tout le monde, de prendre tout le monde, parfois dans des quartiers compliqués, avec des gamines qui viennent de milieux parfois fragiles. Il y avait cette idée en fait du foot comme quelque chose, comme une forme d'école de vie finalement. Mm-hmm. Certains me disaient, là parfois on doit commencer à sélectionner et ça nous met un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que c'est un danger finalement? Parce que le foot, on l'oublie, mais c'est aussi un rôle social aussi quand même très important. Est-ce que c'est aussi un enjeu auquel il faut penser finalement que si engouement il y a, ben, certains clubs ne deviennent pas en fait des clubs d'élite en fait qui finissent par ne prendre que la crème et à ne plus prendre des enfants issus de milieux plus compliqués, j'ai envie de dire.
Oui, mais ça c'est pas une problématique spécifique au football des filles. Non, c'est clairement ça dépend des objectifs du club. Et on est capable de l'entendre. Si le club veut faire de l'élite, ben, qu'il fasse de l'élite. S'il y a une visée sociale, je pense notamment aux clubs pro qui ont cette obligation aussi hein, de mettre du social, en tout cas, d'avoir un objectif social derrière. Mais très bien, maintenant, à l'heure actuelle, pour les filles, il y a de la place partout. Ouais. Si on veut jouer au football, on aura la possibilité d'y jouer, c'est sûr et certain.
Pour inscrire vos enfants, vous n'avez pas eu de problème finalement à leur occasion.
Non, j'ai toujours gardé un bon contact avec le président du club. Et donc voilà, bon, après autant d'années, avoir traversé autant d'épreuves, on va dire, dans les différentes, de les différentes divisions, c'est sûr qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et donc voilà, c'est sûr que moi, comme je l'ai dit, c'était évident que mes filles viennent au White Star, reviennent dans mon club de cœur. Et donc du coup, les faire évoluer là et les faire progresser là, je trouvais ça très très chouette, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas eu de mal, non.
Mais ce que tu mets en avant est vrai aussi, est spécifiquement vrai pour Bruxelles, qui a un nombre de clubs énorme par rapport à d'autres provinces. Je pense au Luxembourg, qui démographiquement parlant est de toute façon différent. Maintenant, la problématique bruxelloise, elle est liée à l'occupation des terrains et à la possibilité d'avoir des nouveaux terrains. Et donc chaque club a sa problématique, chaque province a sa problématique, mais... À l'heure actuelle, tout le monde peut trouver sa place dans le football, garçons-filles confondus.
Oui, j'imagine, effectivement, il y a des disparités territoriales. Entre Bruxelles, comme vous disiez, où finalement il y a une concentration de population assez énorme et peu de terrain disponible, et j'imagine la province du Luxembourg où là c'est plutôt l'inverse. J'imagine que les réalités ne sont pas du tout les mêmes pour les clubs.
Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. La province du Luxembourg est la plus grande province francophone, mais elle a la plus petite démographie au niveau francophone. Donc, eux vont avoir d'autres problématiques, plutôt liées à l'attraction des membres, parce qu'ils sont un petit peu dispersés dans toute la province, que Bruxelles, lui, va avoir plus de problématiques quant plutôt à l'accessibilité des membres. Donc, chaque club connaît sa réalité et connaît les solutions.
Oui. On a évoqué beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas s'il y a encore des. Il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce qu'il y a des enjeux qu'on n'a pas évoqués finalement l'organisateur vous disait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore pour vous finalement dans votre monde rêvé finalement pour y arriver.
Le monde rêvé, ce serait qu'évidemment que les filles aient ce même, aient cette même valorisation presque que les garçons. Enfin, je veux dire. Mais pour moi, on a déjà fait énormément de chemin parce que, enfin, si je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Clotilde, maintenant tous les clubs quasi ont des équipes masculines, féminines dans des clubs masculins. Et donc en fait, avant, moi, je ne jouais dans une équipe féminine qu'il n'y avait qu'à Bruxelles. Donc à Saint-Josse, c'était la seule équipe féminine qui existait. Donc on avait un championnat qui était en Flandre. Et donc au final, ici, maintenant, de ce que je vois, c'est que mes filles jouent à Bruxelles. Et en fait, elles ont un championnat exclusivement réservé à la région de Bruxelles. C'est très rare qu'on sorte de Bruxelles. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque club a une équipe féminine, en fait. Chose qui n'existait pas du tout à mon époque. Et donc, quand j'ai commencé au White Star, on avait encore un championnat où on se déplaçait énormément en Flandre. Donc, on était vu un peu par l'équipe de la capitale qui débarque dans les patins flamands. Donc, c'était un peu compliqué à se faire accepter. Mais maintenant, les choses ont changé. Et maintenant, c'est plus comme ça. Enfin, je veux dire, le foot est devenu tellement presque naturel, à ce niveau-là, avec les filles qui ont des équipes de filles qui vont jouer dans d'autres clubs, que... Il n'y a plus cette rivalité-là qui existait avant. Et donc voilà. Moi, je trouve que là, ça a déjà fait beaucoup de chemin. Maintenant, quand je dis que ça doit encore progresser, c'est sûr, il faut encore... on n'est qu'à 10%. Hein, donc, il faudrait que ce soit encore plus, quoi. Et il y a moyen, parce que je pense que là, la façon dont les choses évoluent, moi, je trouve que on est sur la bonne voie, quoi.
Vous avez fixé des objectifs chiffrés, finalement, à la fédération pour les années qui viennent?
Donc, il y a fixé aussi, pas seulement au niveau de la CFF, mais avec l'Union belge, d'augmenter 10% par an nos membres féminines. Et la place, il y a la place. Il y a clairement la place. Maintenant, c'est notre rôle d'arriver à montrer à tout le monde que le football, c'est pour tout le monde. Je veux dire, que ce soit par rapport aux ethnies, mais que ce soit par rapport aussi aux genres.
Ouais. À part ça, d'autres points, finalement, où vous diriez, tiens, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des enjeux qu'on n'aurait pas évoqués, en fait, dans ce débat, à l'heure actuelle?
Non, pas pour moi, parce qu'on a vraiment parlé de la formation des jeunes, arriver à attirer les filles le plus tôt possible dans la pratique. On a parlé de la formation de nos cadres, donc avoir aussi plus de femmes pour encadrer, mais encadrer aussi les garçons. Je pense vraiment que ça ne peut être qu'une plus-value. Avoir une meilleure structure, un meilleur modèle économique aussi pour nos filles du haut niveau. C'est vraiment trois points essentiels qui vont faire progresser le football féminin. On n'y est pas encore, on y travaille. Et je suis convaincue que dans 10 ans, il y aura d'autres problématiques, mais que celles qu'on est en train d'évoquer pour l'instant seront minimisées.
Bon, écoutez, je pense qu'on va se quitter alors sur ces paroles positives. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Merci,
merci
au revoir.
Au revoir.